Mais Warwick et Suffolk étaient arrivés sur le tertre et avec eux Lord Cobham. « Avez-vous nouvelle du roi Jean ?» leur demanda le prince. « Non, pas de notre vue, mais nous croyons bien qu'il est mort ou pris, car il n'est point parti avec ses batailles. » Alors le prince leur dit « Je vous prie, partez et chevauchez pour m'en dire la vérité. Trouvez le roi Jean. » Les Anglais étaient épars, répandus sur près de 2 lieues rondes, chassant l'homme, poursuivant, déferraillant. À présent que la journée était gagnée, chacun traquait pour son profit. « Dame, tout ce que porte sur lui un chevalier pris, armes et joyaux, appartient à son vainqueur. » Et ils étaient tellement adornés, les barons du roi Jean, beaucoup avaient des ceintures d'or, sans parler des rançons, bien sûr, qui se discuteraient et seraient fixées selon le rang du prisonnier. Les Français sont assez vaniteux pour qu'on les laisse eux-mêmes fixer le prix auquel ils s'estiment. On pouvait bien se fier à leur gloriole. Alors, à chacun sa chance. Ceux-là qui avaient eu la bonne fortune de mettre la main sur Jean d'Artois, ou le comte de Vendôme, ou le comte de Tancarville, étaient en droit de songer à se faire bâtir château. Ceux qui ne s'étaient saisis que d'un petit banneret ou d'un simple bachelier pourraient seulement changer le meuble de leur grand-salle et offrir quelques robes à leurs dames. Et puis, il y aurait les dons du prince pour les plus hauts faits et belles prouesses. Nos hommes sont à chasser la déconfiture jusque aux portes de Poitiers, vint annoncer Jean de Grailly, captal de Buch. Un homme de sa bannière qui revenait de là-bas avec 4 grosses prises, n'en pouvant conduire plus, lui avait appris qu'il s'y faisait grand abattis de gens parce que les bourgeois de Poitiers avaient fermé leurs portes. Devant celle-ci, sur la chaussée, on s'était toxi horriblement. Et maintenant, les Français se rendaient d'aussi loin qu'ils apercevaient un Anglais. De très ordinaires archers avaient jusqu'à 5 et 6 prisonniers. Jamais on n'avait ouï telle méchéance. « Le roi Jean y est-il ? » demanda le prince. « Certes non, on me l'aurait dit. » Et puis, au bas du tertre, Warwick et Cobham reparurent, allant à pied, la bride de leur cheval au bras, et cherchant à mettre paix parmi 20 chevaliers et écuyers qui leur faisaient escorte. En anglais, en français, en gascon, ces gens disputaient avec des grands gestes, mimant des mouvements de combat. Et, devant eux, tirant ses pas, allait un homme épuisé, un petit tuban, qui, de sa main nue, tenait par le gantelet un enfant en armure. Un père et un fils qui marchaient côte à côte, tous deux portant sur la poitrine des lisses de soie tailladées. « Arrière, que nul n'approche le roi s'il n'en est requis !» criait Warwick au disputeur. Et là seulement, Édouard de Galles, prince d'Aquitaine, duc de Cornouailles, connut, comprit, embrassa l'immensité de sa victoire. Le roi Jean, le chef du plus nombreux et plus puissant royaume d'Europe. L'homme et l'enfant marchaient vers lui, très lentement. Ah, cet instant, qui demeurerait toujours dans la mémoire des hommes. Le prince eut l'impression qu'il était regardé de toute la terre. Il fit un signe à ses gentilshommes pour qu'on l'aidât à descendre de cheval. Il se sentait les cuisses raides et les reins aussi. Il se tint sur la porte de son pavillon. Le soleil qui inclinait traversait le boqueteau de rayons d'or. On les aurait bien surpris, tous ces hommes, en leur disant que l'heure de vêpres était déjà passée. Édouard tendit les mains au présent que lui amenaient Warwick et Cobham, au présent de la Providence. Jean de France, même courbé par le destin adverse, est de plus grande taille que lui. Il répondit au geste de son vainqueur, et ses 2 mains aussi se tendirent, l'une gantée, l'autre nue. Ils restèrent un moment ainsi, non pas s'accolant, simplement s'étreignant les mains. Et puis Édouard eut un geste qui allait toucher le cœur de tous les chevaliers. Il était fils de roi, son prisonnier était roi couronné. Alors, toujours le tenant par les mains, il inclina profondément la tête et il esquissa une pliure du genou. Honneur à la vaillance malheureuse. Tout ce qui grandit notre vaincu, grandit notre victoire. Il y eut des gorges qui se serrèrent chez ces rudes hommes. « Prenez place, sire, mon cousin, » dit Édouard en invitant le roi Jean à entrer dans le pavillon. « Laissez-moi vous servir le vin et les épices. Et pardonnez que pour le souper je vous fasse faire bien simple chair. Nous passerons à table tout à l'heure. » Car on s'affairait à dresser une grande tente sur le tertre. Les gentilshommes du prince connaissaient leur devoir. Et les cuisiniers ont toujours quelques pâtés et viandes dans leur coffre. Ce qui manquait, on alla le chercher au garde-manger des moines de Maupertuis. Le prince dit encore, « Vos parents et barons auront plaisir à se joindre à vous, je les fais appeler. Et souffrez qu'on pense cette blessure au front qui montre votre grand courage. »